Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Vous avez entendu dans notre bulletin de nouvelles, il y aura une grande tempête de neige. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit au cours des prochaines heures. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont décidé de travailler à la maison aujourd'hui. C'est pour ça que sur les routes, peut-être vous êtes étonnés de voir qu'il n'y a pas tant de monde que ça. On souhaiterait des journées comme celle-là. On a tellement fait peur au monde que le monde a décidé de rester à la maison. Ça ressemble un peu à ça ce matin. Évidemment, tout le monde s'est rué dans les transports en commun, à tel point que c'était la cohue même ce matin dans le métro. Mon recherchiste Normand a pu vérifier ça de lui-même. Et il semble que si vous voulez, en tout cas, partir de bureau, pour ceux qui y sont allés, beaucoup de gens vont partir plus tôt que prévu puisqu'on s'attend à ce que ça commence là, vers le milieu de l'après-midi, fin d'après-midi. Donc, faites attention à l'heure de pointe. On va parler maintenant de consommation de cannabis parce que les premiers chiffres depuis la légalisation sont sortis. On se demandait justement quel allait être l'impact de cette légalisation du cannabis là, depuis le 17 octobre dernier. Et là, StatCan nous donne des chiffres. Légère hausse de consommation au Québec, apparemment, depuis la légalisation. Ce qui surprend le plus, moi, je n'avais pas ça, c'est que c'est au Québec qu'on consomme le moins de pot au pays. Or, évidemment, quand on dissèque le tout, on remarque quand même que chez les jeunes 18-24 ans, il y en a quand même environ 35 % qui fument. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que dans le fond, même si la moyenne d'âge, là, j'ai remarqué aussi dans la statistique, c'est 38 ans au Québec, la moyenne d'âge de la personne qui fume du cannabis, et il y en a à peu près 20 % là, qui disent le fumer tous les jours, au moins une fois par jour. Donc, vous dites, bon, c'est près de 40 ans, t'es un adulte, t'es consentant, tu sais ce que tu fais, ton cerveau y est formé à la rigueur, doit-on s'inquiéter? C'est les 18-24 le problème, puis pour pas dire les 12-24 à la rigueur. Avec nous, le Dr John Sader, médecin de famille spécialiste en traitement des dépendances. Merci beaucoup d'être avec nous, Dr Sader.
Ça me fait plaisir.
Quand vous bon, premier chiffre, là, c'est la première fois là, qu'on a quelque chose à se mettre de tangible sous la main. C'est pas forcément très, très, très détaillé, mais quand même, ça nous donne assez d'infos, surtout que étonnamment, c'est aujourd'hui que commence la commission parlementaire sur le fameux projet de loi 2 là, du gouvernement du Québec qui veut repousser l'âge de consommation légale à 21 ans. Donc, on parle beaucoup de cannabis aujourd'hui, finalement.
Ça a de l'air.
C'est ça. Vous, quand vous regardez les statistiques, mais vous en pensez quoi?
Écoutez, c'est quand on regarde des études comme ça, c'est Stats Canada, c'est des sondages. Il faut faire attention. On peut se demander, une des questions qu'on peut se demander, c'est que est-ce que les Québécois, d'emblée, sont moins réticents à dire toute la vérité que les autres Canadiens? Ça se pourrait bien. Hein? Je ne suis pas un spécialiste des sondages, mais il se pourrait qu'il y ait des différences interprovinciales par rapport à, au niveau de confort que les gens ont à rapporter ce qu'ils vivent vraiment. C'est sûr que
vous,
c'est
vous croyez
inquiétant.
Pas qu'on en fume moins ici?
Je le sais pas. Je le sais pas. Écoutez, c'est tellement compliqué la consommation. Au Québec, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, ils s'en fument beaucoup. Mais tu sais, les Canadiens anglais, est-ce que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent ailleurs...
Ils en parlent moins, mais ils font plus?
Peut-être qu'ils en parlent moins, puis ils font plus. En tout cas, on sait qu'en voit en les statistiques, en Nouvelle-Écosse, c'est épeurant.
Je ne sais pas si le cannabis, c'est comme le sexe.
Peut-être.
Plus tu en parles, moins
peut-être,
tu le fais.
Peut-être.
Mais c'est quand même des chiffres.
Ce qui est intéressant, c'est que malgré une hausse autour de, selon StatCan, de 25 %, ouais. Hein, on est parti de 730 000 fumeurs de cannabis à 930 000 à peu près. Fait que, bon, une différence de 200 000 sur 705,
ouais.
C'est à peu près 25 %, c'est quand même beaucoup. Est-ce que les gens se sentent simplement plus à l'aise d'en parler? Maintenant, on se serait attendu aux autres provinces que ce soit pareil aussi, qu'ils soient plus à l'aise, mais peut-être qu'il l'était déjà. Moi, je pense que pour étudier les choses vraiment comme il faut, on pourrait court-circuiter tout ce genre d'analyse statistique puis aller droit au but puis voir les conséquences.
Bien, vous, les voyez-vous depuis le 17 dans votre
ça fait
bureau?
Bien, on voit des gens... Ce qu'on voit dans nos bureaux, c'est plus de gens qui demandent du cannabis médical. Ça, on le voit. Les gens qui sont insatisfaits de contrôle de la douleur, les gens, ils s'imaginent que ça va être une panacée. Ça n'en est pas une, mais bon. Si on en voit plus, j'ai vu deux patients faire des mauvaises réactions sur le cannabis qui savaient pourtant qu'ils étaient sensibles et qu'ils ne devaient pas en prendre, mais depuis que c'est devenu légal, ils se sont essayés puis ont eu des conséquences. Mm. Moi, je pense qu'il faudrait parler avec les urgentologues, les psychiatres à l'urgence qui voient les psychoses toxiques, les gens qui voient les est-ce que les accidents de la route en lien avec le cannabis sont augmentés. C'est ce genre de statistiques-là que j'aimerais voir.
Parce que, mais depuis octobre, on n'a pas assez de données.
On n'a pas assez. On n'a pas assez de distance. On n'a pas assez de longueur de temps. C'était plus difficile d'étudier avant. Maintenant, ça va peut-être être plus facile à étudier parce que les gens en prennent. On voit des interactions médicamenteuses. On va voir des conséquences peut-être plus facilement. C'est plus facile à dépister aussi, mais ce qui est difficile
mais donc, au Québec, où on a dit pendant plusieurs mois, avant la légalisation, on a dit ça n'aura pas d'impact, les gens qui en fumeront encore, et ça n'aura pas d'effet vers une hausse des consommateurs. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, il semble y en avoir une hausse de consommateurs de pot.
Il semble. Mais encore là, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec un grain de sel. Moi, je pense que ça va prendre d'autres chiffres, d'autres façons d'étudier la chose, vraiment. Tu sais, des fois, c'est en mesurant les conséquences, peut-être ça nous donne l'heure plus juste, parce que c'est dans le fond, c'est les conséquences qui nous intéressent. C'est pas juste la consommation. S'ils vendaient du cannabis à 2 % puis plein de monde fumait, mais il n'y avait pas beaucoup de conséquences, bien, ce serait moins problématique. C'est les conséquences qu'il faut regarder, je pense.
C'est quand on va dans le détail aussi de ce genre de sondage que c'est intéressant. Le Statistique Canada nous apprend que, par exemple, sur les méthodes de consommation de cannabis, la plus fréquente, c'est ceux qui le fument. Mm-hmm. Hein? C'est encore une majorité de gens, là, près de 73 % des gens qui préfèrent le fumer. Mais il y a comme 9 % des gens qu'ils disent, ben moi, je le bois ou je le mange. Ils s'en servent comme un aliment ou une boisson. Ça, ils doivent faire venir du stock d'ailleurs ou bien ils se font leur propre muffin aux potes.
Mais, ils font leur propre
muffin. Pour l'instant, ce n'est pas permis. Le vapotage, c'est plus de 10 % des gens qui vapotent aussi, qui mettent du cannabis. Donc là encore, étant donné que pour l'instant, chez nous, de mémoire, ce n'est pas permis. Il y a bien des compagnies. On parle beaucoup de la compagnie Juul qui apparemment semble vouloir faire du lobby ici. Pour essayer de vendre leurs produits. Juul qui a été racheté par des compagnies des cigarettiers, finalement, qui veulent aller dans le marché du pot. Ou...
Mais ça a du sens. Parce que
logique.
Le Juul, vous savez, il y a des études, des bonnes études, qui suggèrent que des ados qui commencent à vapoter souvent finissent par devenir des fumeurs de cigarettes régulières. Il faut s'entendre que c'est beaucoup plus facile une cigarette régulière. Tu as ton briquet, tu allumes ta cigarette, puis ça y est. Les vapoteuses, il faut les brancher, il faut les recharger, etc.
Non, mais c'est super facile avec le Juul.
Mais Juul,
ça
c'est
sent
ça.
Bon, puis il y a
c'est
plein
beaucoup
de...
plus facile.
Ouais.
Il y a toutes sortes de saveurs, gomme ballon, barbe à papa, etc., qui visent clairement les enfants. Ça s'apparente, ça a l'air d'une clé USB. C'est déjà chargé. Il y a plein de Québécois qui les font venir par l'Internet. Il y a des gens qui ont plus que l'âge requis dans leur état. Ils l'achètent et ils deviennent des revendeurs. Dans le fond, on crée un réseau de revendeurs. Ils revendent ça sur eBay. Puis l'autre qui a 16 ans n'est pas supposé être capable d'en acheter, mais l'achète du revendeur.
Et pour vous, c'est mauvais, ça, Dr. Sanders?
Bien, vous savez, la cigarette, elle est mauvaise à plusieurs égards. Il y a le niveau santé physique à cause de la boucane puis les produits de combustion.
Ouais.
Mais il n'y a pas rien que ça. Au niveau des relations, la cigarette enlève aussi parce que c'est une façon de booster ses neurotransmetteurs par le biais d'une substance au lieu que ce soit à travers notre famille, nos amis, nos activités, le tennis, le hockey, etc. Donc, il y a ce niveau-là que ça se passe aussi. Donc, quand on vapote, on a des effets physiques différents, sûrement moins graves
que la cigarette.
Mais pas nécessairement parfaitement santé non plus. Il commence à avoir des études qui démontrent qu'il y a certains types de tumeurs qui sont encouragés par le vapotage plus que par la cigarette, etc. Mais les conséquences de la dépendance...
Il
n'y
a pas de risque zéro non plus.
Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a jamais de risque zéro. Il n'y a jamais de risque zéro. En même temps, il y a l'effet relationnel que qu'on soit avec une vapoteuse ou une cigarette, ben l'effet sur la relation est là pareil. C'est-à-dire, on booste
notre cerveau. Mais entre les deux,
vous
prenez quoi, vous?
Moi, j'en prends pas. Moi, je me dope à la vie. Moi, j'aime ça me doper à la vie. Il y a des choses bien plus le fun à faire que ça. Puis on a un sentiment plus complet parce que si je fais un bon coup au tennis, le bon coup, il m'appartient. Mm. Tandis qu'avec toutes les substances, et même quand on traite avec des antidépresseurs, etc., la personne qui n'a pas investi directement n'a pas un effet complet. Et justement, c'est pour ça que les gens retournent fumer.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien à faire, par exemple, avec le fait que ici au Québec, c'est surtout... Il y a plus d'hommes que de femmes qui fument. Oui. Beaucoup de plus jeunes hommes aussi.
Là, on parle de cannabis, là.
Oui, de cannabis, oui. Là. Oui, pardon. Par rapport à tout ce qu'on dit sur le fait que les gars, les hommes ont un peu plus de difficultés à aborder certaines choses de la vie. Vous parlez de la dopamine naturelle que vous avez. Il y a beaucoup de gars qui ne l'ont pas, là, qui l'ont perdu, qui sont un peu déprimés, qui décrochent. Là, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Fait qu'évidemment, bon, on lit beaucoup de choses là-dessus. Est-ce qu'il y a un lien? Enclin à se geler avec la...
Je pense que oui. Écoutez, je pense que ce soit des gars ou des filles, mais les gars sont reconnus, ils ont de la difficulté avec l'intimité, le sexe passe avant l'amour, ils ont de la difficulté à s'ouvrir le cœur. Les gars sont fragiles aussi, la vie les blesse aussi, puis ils sont supposés tough, puis pas en parler, fait qu'ils gardent beaucoup de choses à l'intérieur, tandis que les filles en parlent plus facilement, ça les aide. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'on a une société qui refuse la souffrance souvent. Ouais. C'est-à-dire, les gens, ils vivent des peines et on veut corriger leurs peines, qu'il n'y ait pas de peine. Et pourtant, c'est justement ces souffrances-là qui fait de nous des êtres blessés et plus tard, des êtres qui peuvent avoir de la compassion puis de l'empathie pour les autres. Mais quand on a, ben, j'ai de la peine, je mange un biscuit, ou j'ai de la peine, j'achète un jouet, j'ai de la peine, je change de blonde, j'ai de la peine, je consomme une cigarette. Pour moi, c'est toute la même chose. Puis il faudrait comme approfondir peut-être le débat, la façon de voir tout ça. Avoir de la peine, c'est pas une mauvaise affaire. Il faut apprendre à avoir de la peine, puis faire des deuils, puis passer à d'autres choses.
Mais il ne faut pas que ce soit trop long.
Il ne faut pas que ce soit trop long.
On n'aime pas ça quand on a de la peine trop longtemps.
Oui, puis il faut qu'on puisse s'en sortir.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne fais pas l'apologie d'une société sans douleur. Au contraire, c'est ces moments-là douloureux qui donnent un sens à notre vie, parce que la grande majorité de notre temps sur Terre, on n'est pas dans des blessures aiguës. On est dans le présent, le moment avant les blessures. Hein? Le pré-sentir, le pré-abandon, le pré-maladie.
Ça vient de là, présent?
Ben, pour moi, ça vient de là. Hein? C'est le moment
avant. Il y a une logique certaine.
Le moment avant de sentir.
Ouais.
Sentir quoi? Sentir la mort, sentir la séparation. Fait qu'on vit des grands moments où est-ce qu'on est supposé être bien. Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui décrochent pas. Ils ont perdu leur chien. Au lieu de faire leur deuil, puis de remonter, puis finir par en acheter un autre, ils restent sur le ressentiment, le ressentir le même sentiment à répétition pendant des années, puis ils n'achètent pas de nouveaux chiens parce qu'ils n'ont jamais fini le deuil de leur ancien chien.
Mm-hmm.
Ça, pour moi, c'est malheureux. C'est triste de vivre comme ça. Mais on a une société comme ça. Les gens ne veulent pas avoir mal non plus. Docteur, donnez-moi des pilules pour enlever mon mal. OK, donnez-moi des pilules pour enlever ma souffrance. On ne peut pas. La souffrance, quelque chose qui se travaille en soi, c'est d'accepter. On a mal, puis on passe à travers, puis ça va nous... Mais quand on se bat contre notre douleur, ça nous fait encore plus mal.
Mm.
Fait que je pense que... Je vais dire quelque chose d'un petit, peut-être un petit peu heurtant. Le fait d'avoir des choses dangereuses dans une société, puis c'est pas nécessairement mauvais. C'est-à-dire que des fois, il faut se perdre pour se retrouver. Et si on aseptise notre société complètement, les gens ne se perdent pas. Donc, ils ne se retrouvent jamais et ils n'ont jamais la confiance qu'ils sont capables de se trouver soi-même. Avant, quand la religion avait beaucoup de place au Québec, on dictait aux gens comment vivre. Les gens vivaient comme ça et ça marchait.
Ils suivaient
le
guide.
Mais ce n'était pas intégré. C'était plaqué. Fait que là, on se perd plus Et avec certaines choses qui sont pas trop accrochantes, ben à ce moment-là, ben on se perd un certain temps, puis ensuite on se retrouve, puis on grandit là-dedans, puis on finit par passer à d'autres choses.
C'est très intéressant, je trouve, ce que vous dites, docteur Sader. Je trouve que ça aide aussi, ça nous aide comme parents d'ados à cheminer aussi par rapport à leur consommation. Je veux dire, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Je pense que les parents qui disent « Moi, mon jeune, il fume pas », t'as envie de dire « Arrive en ville », ou parce que c'est sûr que les jeunes l'essaient, en tout cas une grande majorité. Il y a peut-être des jeunes qui ne touchent pas du tout, mais il y en a quand même une plus grande majorité qui l'essaient dans le dos de leurs parents ou en le disant à leurs parents. Puis je pense que c'est mieux d'avoir toujours le canal de communication ouvert
tout à fait.
Que de le fermer.
Puis
de
le parent, il n'est pas là pour tout protéger tout. Voilà. Il est peut-être plus là pour outiller en cas où.
Mais il faut,
parce qu'on ne peut pas être
toujours. Il faut qu'on chemine.
Ben, nous autres aussi.
On chemine aussi. Oh, on va aller à la pause, bien sûr. On est en compagnie du docteur Sader. On parle de la consommation de cannabis qui, selon Statistique Canada, a donc augmenté quand même de façon notable au Québec, même si vous aurez compris que par rapport aux autres provinces, Nouvelle-Écosse, 21%, Nouveau-Brunswick, près de 20%, Colombie-Britannique, 15%, Ontario, 15%, au Québec, 13,6% apparemment. Peut-être qu'on le dit pas. Quand c'est le fédéral qui appelle, on tient ça mort. On verra. T'as peur que ça soit Revenu Canada? Non, t'es trompé, c'est Statistique Canada. Tu peux dire la vérité à Statistique Canada. Est-ce que vous avez été tenté? Moi, tu peux dire la vérité à Isabelle. On juge pas du tout. Avez-vous été tenté d'essayer du pot, vous, depuis le 17 octobre, vu que c'est légal? Tu sais, c'est légal, c'est 18 ans et plus. Mais ça va peut-être changer, parce que le gouvernement du Québec, je vous le rappelle, à partir d'aujourd'hui, est en train, là, ils sont en commission parlementaire en ce moment même. Ils étudient le projet de loi 2 qui vise à augmenter l'âge de 18 à 21. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas une bonne idée. Vous allez nous dire votre position là-dessus tout de suite après la pause. Alors, vos commentaires, 514-790-9850. Est-ce que vous avez été tenté, Joël, d'essayer le cannabis? Je ne sais pas si vous êtes vous-même, vous étiez déjà un fumeur de pot avant la légalisation du 17 octobre. Mais est-ce que depuis, vous en fumez plus, par exemple, si vous en fumiez déjà?
Oui, j'en fume un peu plus, c'est sûr et certain. Moi, quand que j'étais jeune, là, à partir de l'âge de peut-être 13 ans, j'ai commencé à fumer, puis tout ça, j'ai commencé à fumer régulièrement, puis beaucoup trop, là. Fait que peut-être vers la vingtaine, j'ai commencé à avoir des problèmes un petit peu d'angoisse, là, qui étaient reliés surtout à ma consommation. Fait que peut-être à l'entour de 25 ans, j'ai complètement arrêté, mais j'avais toujours un entourage autour de moi qui était des gros consommateurs. Fait qu'une fois de temps en temps, j'en demandais un peu à mes amis, je rentrais chez nous tout seul, je fumais, je fermais quasiment les rideaux, là, puis je me mettais angoissé, mais c'était plus fort que moi, puis il fallait tout le temps que j'en fasse avec que j'en fume un petit peu à l'occasion.
Donc l'entourage, l'entourage, Joël, a été important pour vous dans votre geste de fumer, puis de recommencer.
Oui, c'est sûr et certain. C'est la même chose qu'un alcoolique. Ouais. Un alcoolique qui est toujours entouré de monde qui consomme d'alcool va toujours finir par tricher une fois de temps en temps. C'est pas pour tomber dans une consommation régulière. Donc, depuis que la SQDC est ouverte, ben là, sur le marché noir, j'étais pas vraiment capable d'avoir du pot avec seulement du CBD dedans. On avait toujours le monde, qu'est-ce qu'ils vendent sur le marché noir, c'est tout le temps des taux de THC tout le temps de plus en plus haut. Fait que c'est sûr et certain que pour qu'est-ce qui était des angoisses, des psychoses ou quoi que ce soit, c'était tout le temps trop fort. Mais là, depuis que la SQDC est ouverte, ben là, j'y étais là-bas. J'ai été m'acheter du pot avec seulement du CBD, toujours zéro THC. Des fois, un petit peu de THC, mais toujours l'effet que j'aime pas. Fait que je retourne tout le temps avec mon 100% CBD. Puis en même temps, ben moi j'ai des douleurs lombaires, fait que je fume ça, je vais dans le spa, je prends un petit verre de vin, je sors de là, je suis complètement relax, j'ai aucun effet là qui peut être psychotique ou quoi que ce soit. J'ai pas faim non plus. Souvent quand on fume avec du THC, on se met à défoncer le frigidaire littéralement. Là. Donc avec le CBD, ben j'ai pas ces effets-là non plus. Ça fait juste un petit peu de détente, ça me remet dans mon habitude que j'aimais fumer ou quoi que ce soit. Puis justement, quand que je vais avec mes amis là, qui sont des gros consommateurs, ben là, eux autres, ils vont fumer 2-3 fois durant en soirée. Fait que moi, je vais avoir mon petit joint de CBD là, justement, qui va me donner pratiquement pas d'effet.
Ben oui, il n'y a pas de buzz. S'il n'y a pas de THC, il n'y a pas de buzz.
Ben, il n'y a pas vraiment de buzz, non, à avoir. Par contre, ça donne quand même un petit effet là, relaxant.
Un petit feeling.
Un petit peu plus détendu. Mais c'est sûr et certain là, que peut-être le premier 5-10 minutes, là, on est un petit peu gelé, là, relax, là, puis un petit fou rire ou quoi que ce soit. Mais c'est pas quelque chose là, qui s'éternise. Il n'y a pas de down non plus après, de mal de tête ou quoi que ce soit que le monde peut avoir là, après avoir fumé un gros joint en plein après-midi. Là.
Quel âge avez-vous, Joël?
J'ai 35 ans.
35. Vous êtes à peu près l'âge moyen là, des Québécois, des gars québécois qui fument, là, du portrait type du fumeur de cannabis au Québec. Ouais. Tout à l'heure, Dr. Sader disait, faudrait savoir pourquoi les gens se gèlent aussi, pourquoi les gens fument. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, ça me fait du bien, ça me calme. Mais au-delà de... Vous, Joël, c'est quoi la raison? Vous dites, je suis un petit peu gelé au début, mais sans plus.
Là, je fume, là, vraiment, là, quand que je vais aller relaxer dans mon spa ou quoi que ce soit. Là, ouais. C'est pas mal ça que je vais chercher aujourd'hui à l'âge que j'ai. Par contre, pourquoi je fumais quand j'étais jeune? J'en ai aucune idée, pour être franc. Je les émotions d'un adolescent ou faire comme les autres ou quoi que ce soit, mais je dire, franchement, habituellement, là, quand on commence à fumer quand on est jeune, c'est un peu pour triper, après ça, on le sait même plus, là, parce qu'il y a une grosse engrenage qui se fait avec la consommation de cannabis quand on est jeune. Là. On fume pour être cool, mais après ça, on vient dans le cercle... Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes là, à cause de ma consommation. J'étais rendu à voler, à mentir ou quoi que ce soit pour aller chercher de la drogue ou quoi que ce soit. Mais juste pour le cannabis, simplement. Il n'y avait pas de drogue dure ou quoi que ce soit. Là, fait que quand on est jeune, on n'a pas de raison. Des raisons, je ne connais pas nécessairement pour chacun des jeunes, mais je vous dirais que c'est sûrement pas des belles raisons au début quand on commence.
Avez-vous des enfants?
Oui, j'en ai deux.
S'ils fumaient du pot, vous diriez quoi?
Ben, j'imagine qu'ils n'auront pas vraiment le choix de le découvrir parce qu'avec la légalisation, ils vont en avoir juste de plus en plus, un peu tout partout. Mais
puis vous, 18 ou 21, l'âge légal?
18. Justement pour... parce que jusqu'à 21 ans, là, maintenant, à 18 ans, on peut voter, on peut boire de la bière, mais on ne pourrait pas consommer de cannabis. Ouais. Et là, justement, le cannabis légal ouvre une porte, justement, un cannabis beaucoup moins haut en THC. Là, c'est sûr et certain là, que c'est l'idéal. Parce que même moi, aujourd'hui, je le trouve extrêmement cher et la qualité n'est pas nécessairement belle à la SQDC. Si on pourrait avoir du cannabis de qualité avec un taux de THC beaucoup plus raisonnable. Quand on en était jeune, on se fumait des joints. Moi, je partais le matin pour aller à l'école. Je me voulais, qu'est-ce qu'on appelait un deux papiers dans ce temps-là. Je partais tout seul à pied. Je me rendais à l'école en fumant peut-être un 0.7, 0.8 grammes. Aujourd'hui, c'est soit moi qui a complètement changé ou bien le pot a vraiment changé. Là, parce que aujourd'hui.
Les deux. Sans doute les deux.
C'est ça. Aujourd'hui, je fume deux, trois puffs de potes qui gèlent, puis je suis viré à l'envers. Mais avant, j'étais capable de partir à l'école en fumant quasiment un gramme à moi tout seul, puis aller m'asseoir en cours, puis je faisais mon cours au grand complet jusqu'à un certain niveau, c'est sûr et certain. Là, mais
merci.
J'avais pas tellement de problème.
Merci beaucoup, Joël. Ça a été fascinant de vous parler. Merci bien. Le pot a changé, Dr. Sader.
Le pot a changé. Il est plus fort qu'il était, c'est sûr. Mais le cerveau de Joël a changé aussi. Hein? À force de... Au début, il y a un effet stimulant chez certaines personnes aussi, pas seulement relaxant, mais à force de fumer, on dirait que le cerveau devient encore meilleur à aller chercher ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça donne des crises d'anxiété, des crises de panique, de la méfiance, puis même de la paranoïa, puis ensuite, ça peut donner des psychoses. Fait que le cerveau change, puis un cerveau, quand il apprend à faire des choses, il a beaucoup de difficultés à désapprendre à faire ces choses-là. Ouais. Fait que j'en ai vu, moi, qui ont arrêté de fumer pendant 15 ans, puis qui ont fumé deux puffs 15 ans plus tard, puis ils sont tombés tout de suite en psychose. Parce que leur cerveau retient un peu la piste. Moi, j'aurais aimé ça demander à Joël si, tu sais, il a mal au dos chronique, il prend du CBD, ça l'aide pour son mal de dos. Est-ce que ça peut donc aider pour d'autres douleurs, genre les douleurs morales, les douleurs psychologiques? Et si oui, est-ce que c'est une bonne chose? Même si c'est du CBD, gérer ses douleurs psychologiques artificiellement au lieu de régler, c'est une bonne affaire.
Oui, mais les antidépresseurs, c'est ça que ça fait aussi, Dr. Sader. Des fois, tu te demandes, est-ce que le pot, c'est pas plus naturel que des pilules chimiquement faites en laboratoire industriel?
Je vais vous surprendre encore. Ouais. Je vais vous dire que je suis d'accord avec vous. Que les bons médecins qui prescrivent des antidépresseurs vont orienter leurs patients ou ils vont le faire eux-mêmes, de faire de la thérapie cognitive, comportementale, interpersonnelle, parce que des antidépresseurs donnés comme ça, sans aucune thérapie, on retrouve ces mêmes gens-là 15 ans plus tard sur le même médicament qui n'ont rien changé et dans le fond... Ils se sont servis de ça comme une drogue.
Ils l'ont pris. Et ils sont accros souvent.
Et ils sont accros et on essaye de les enlever. Puis là, on parle de dépression réfractaire. Mais quand on voit ces gens-là, puis on les questionne, mais vous avez jamais vu un travailleur social? Vous avez jamais vu de psychologue? Vous avez jamais vu de psychiatre? ben voyons, c'est pas de même qu'il faut traiter la dépression.
Docteur John Sader, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Les médecins de famille spécialisés en traitement des dépendances. On va suivre, bien sûr, pour vous, cette commission parlementaire qui s'intéresse au projet de loi 2, donc celle du ministre Lionel Carman qui veut resserrer l'encadrement du cannabis. En fait, on dit que c'est vraiment une loi où il y a vraiment les deux camps. Là. On dit pro-18, pro-21, c'est-à-dire il y en a qui sont pour que ça reste à 18 ans, comme au fédéral. Puis il y en a d'autres qui estiment que 21 ans, ça devrait être l'âge minimum. On en reparlera au cours des prochaines semaines. Merci, John.
Ça me fait plaisir.
Tout de suite après la pause, je suis contente de la recevoir. Ça fait très longtemps qu'elle est venue à notre émission. Nathalie Simard va être avec nous.